Qu'est-ce que sur ce témoignage-là, qu'est-ce qu'on peut dire du salut, soit d'une manière générale ou même par rapport à Kosovo?
Moi, je dirais qu'il a, il a fait totalement confiance au Seigneur. Il avait foi en Dieu et le Seigneur ne l'a pas abandonné. On voit à la fin que le Seigneur ne l'a pas abandonné. Même les gens qui l'accompagnaient, ils étaient étonnés de voir comment il a pu retrouver son enfant qui était perdu. Et c'est là vraiment où Dieu nous montre qu'il est avec nous quand on lui fait totalement confiance.
Amen.
En fait, ce qui me marque énormément, ce qui me donne beaucoup de joie, c'est de voir la conversion d'une âme qui trouve la paix, la joie en Jésus. Moi, c'est vraiment le sentiment qui m'a ravi, qui m'a ému, c'est de voir cette transformation et comme combien Jésus change nos vies et nous libère de tout esclavage, de toute contrainte, de tout ce que le diable avait mis en nous, en fait. C'est une résurrection, c'est une nouvelle naissance, c'est la nouvelle naissance et c'est un témoignage tellement beau de voir une nouvelle naissance.
Amen. Donc, ce qui est important... Donc, lorsque je posais la question donc, par rapport au salut, c'est qu'on n'oublie pas que si on parle de salut, c'est qu'il y a eu un avant et il y a eu un après. Et finalement, on va voir d'une manière claire qu'il y a un contraste entre ce qu'était la personne avant et ce qu'elle est aujourd'hui. De la même manière qu'on pourrait parler chacun de notre témoignage. On se connaît, je dirais, les défauts qui étaient, je dirais, très visibles, même si... On tend à cette perfection, mais il y a quand même une différence entre l'avant Jésus et l'après Jésus. Donc, on va donner quelques points après. Je laisse d'abord intervenir. Quelqu'un voulait intervenir?
Oui, moi, là où je voulais aussi intervenir, c'est que une fois de plus, on voit encore que vraiment le Seigneur se révèle à ceux qui le cherchent de tout leur cœur, quoi. Parce que lui aussi, encore, il dit qu'il cherchait quand même Dieu aussi. Et même s'il n'a pas précisé quel Dieu, mais on voit encore que le Seigneur, vraiment, c'est le Dieu qui se révèle aussi à ceux qui le cherchent, quoi.
Voilà, donc il était quand même musulman. Il était quand même musulman, mais malgré, je dirais, sa religion... Il n'était pas pour autant heureux, donc il manquait quand même quelque chose. Et c'est un point qu'on avait évoqué la semaine dernière déjà, où le Seigneur dit, vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Donc nous voyons là vraiment une personne qui était dans la recherche, pas forcément de quelque chose qu'il connaissait, parce que pour lui, certainement que Allah devait être le vrai Dieu à cette époque-là. Mais il se rend compte que bien qu'étant dans la religion musulmane, il y a toujours quelque chose qui manquait. Et c'est la réalité qu'on retrouve, je dirais, dans tout homme. Donc lorsque nous voyons aujourd'hui le monde tel qu'il fonctionne, avec des médiums, avec des rebooteurs, avec tous ceux qui ont, je dirais, des pratiques spirituelles, des pratiques mystiques, et qui finalement ont beaucoup, je ne sais pas si on peut dire des patients ou des patients ou bien des adeptes, en tout cas beaucoup de personnes qui les sollicitent, c'est là la démonstration qu'il y a quelque chose que l'homme recherche mais qui n'arrive toujours pas à satisfaire. Et ces gens-là se font beaucoup d'argent. C'est vraiment un vrai marché. On voit encore, je dirais, toute la voyance qui se fait même par téléphone, qui se fait par Internet. Donc les gens sont vraiment dans une recherche permanente de quelque chose qui les dépasse, qui n'arrive pas forcément à expliquer et qui est censé, en réalité, les emmener vers Dieu. Qui a le micro? Sandrine avait levé la main tout à l'heure. D'accord. Il y a Nathanaël au fond là-bas.
Voilà, moi ce qui m'a aussi interpellé par rapport au salut, c'est une phrase merveilleuse qu'il a dit par celui qui l'exhortait. Il a dit tu vas découvrir la vérité, alors réjouis-toi. Et ça, pour moi, ça résume vraiment la transformation qu'il y a eu. Et effectivement, il a dû pleurer, il a dû relire plusieurs fois, mais quand il a rendu compte de la vérité, ben voilà, sa vie a changé, il s'est réellement réjoui.
On voit qu'à un moment donné, justement, lorsque il a lu et relu, et lorsque dans sa chambre, il finit par jeter le Nouveau Testament, il jette. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Le fait qu'il lise et qu'il relise, mais que finalement, il ne trouvait toujours pas la paix au point de jeter la Bible, quoi. Qu'est-ce qui fait qu'un homme puisse lire la parole de Dieu et finalement ne rien saisir du tout?
Je pense que Dieu ne s'était pas encore révélé à lui. Parce que dans la colère, quand il a jeté la Bible, et c'est peut-être là que... c'est à ce moment-là que Dieu s'est révélé à lui, en lui tendant la main, et puis ça l'a rappelé les souvenirs quand il était tombé dans l'eau, quand son fils était tombé dans l'eau.
Non, quand il jette la Bible, en fait, le film commence par la fin. Ah. Après, on revient et on nous explique pourquoi il a fui.
En fait, je pense que c'est parce qu'il la lisait par sa propre intelligence. Il n'avait pas encore demandé à Dieu de se révéler à lui. Il n'avait pas encore cherché vraiment la face de Dieu avec son cœur. Il était curieux, il avait envie. Mais quand il lisait la Bible, peut-être qu'il la lisait par sa propre intelligence sans avoir demandé à Dieu de se révéler à lui.
Bien, mais je pose la question parce que nous sommes appelés à l'évangélisation, nous sommes appelés à parler du Seigneur. Et il arrive quelquefois que même nous, chrétiens, on se décourage même, des fois après avoir parlé à quelqu'un, ou bien quand on a le sentiment que la personne fait vraiment toutes les démarches pour connaître Dieu, mais c'est comme si finalement, soit les prédications ne servent pas, soit la Bible n'est pas puissante. Donc on a quelquefois comme un sentiment qui nous dit, mais il manque quand même quelque chose. Donc c'est important pour nous d'être capables, entre guillemets, de pouvoir analyser la situation, parce que nous devons comprendre que ce n'est jamais la faute du Seigneur. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc même une personne qui peut être, entre guillemets, chrétienne depuis longtemps et qui dit, mais non, je ne comprends pas, je n'y arrive pas, mais je n'arrive pas, ce n'est pas la faute du Seigneur. C'est que forcément, il y a toujours un problème chez cette personne-là. Et des fois, nous, pour, je dirais, balayer d'un revers ou bien par dépit, on peut dire, bon, c'est pas grave, continue tout simplement, Dieu finira par se révéler à toi. Non, il faut qu'on soit clair aussi, d'expliquer à la personne, non, c'est que ton cœur n'est pas encore disposé, tu n'ouvres pas encore ton cœur, tu ne fais pas ce qu'il faut pour que le Seigneur se révèle à toi. Il faut que les personnes soient en face de leur responsabilité, parce que la volonté de Dieu, c'est de vouloir sauver. Donc le Seigneur a dit qu'il ne mettra pas dehors celui qui vient à lui. Mais si la personne semble faire une démarche, mais que cette démarche n'aboutit pas, c'est certainement pas la faute du Seigneur. C'est qu'il y a encore un problème qui n'est pas réglé chez la personne. Autant pour celle qui cherche le Seigneur, comme pour le chrétien qui peut sembler comme traîner dans sa vie chrétienne, quoi. C'est lui qui a un problème. Oui? Donc vas-y d'abord, Claude.
Oui, je suis d'accord avec toi par rapport à ce que tu dis, que c'est jamais la faute du Seigneur. Mais en fait, moi, je voyais plutôt... Kosro se jeter la Bible, se mettre en colère parce que quand le pasteur lui a donné la Bible, en fait c'est comme si pour moi c'est comme s'il y avait une foi qui commençait à naître dans son cœur en disant bah, ça y est, qu'il détient réellement la vérité. Et le fait bah, qu'il lise et qu'il ne cerne pas réellement, qu'il ne s'humilie pas réellement pour voir la face de Dieu, bah, en fait c'est là qu'il s'est énervé, parce que dans le sens où il pensait que ce serait la solution, et puis bah, qu'il l'a pas eu, c'est là qu'il a acheté la Bible, en fait.
Oui, je suis d'accord aussi avec ce qu'a dit la sœur Chantal, c'est qu'il avait pris certainement les choses avec intelligence. Il était curieux, il avait soif de découvrir, mais le cœur n'était pas totalement ouvert. On sait une chose, c'est que Dieu résiste aux orgueilleux. Donc, la colère qu'il a semblé manifester, qu'il a manifestée, je crois que le Seigneur, lui, nous humainement parlant, on va dire non, il est vraiment en colère, comment il peut faire des choses comme ça. Mais le Seigneur, lui, va beaucoup plus loin, il regarde au cœur. Il sent que c'est vraiment peut-être une colère tout simplement liée à la détresse, quoi. Liée à la détresse, parce que si c'était vraiment une colère liée à l'orgueil, c'est sûr et certain que le Seigneur ne se révélait pas. Le Seigneur ne fait grâce qu'aux humbles. Donc la colère qui a été manifestée, en fait, a été comme, je dirais, un dépit, quoi. Donc c'est comme s'il était vraiment au bout du rouleau. Le Seigneur l'a amené vraiment à être jusqu'au bout, vraiment essoré, pour dire vraiment là, je n'en peux plus, si tu ne te révèles pas, donc laisse-moi tranquille, quoi. Mais on voit que si le Seigneur s'est révélé, c'est que certainement, c'est là où son cœur a été ouvert, quoi. Parce que si c'était vraiment de l'orgueil, cette colère était liée à de l'orgueil, c'est sûr que le Seigneur n'allait pas se révéler. Donc là, on revient encore, lorsque nous sommes dans des situations où nous avons en face de nous des chrétiens qui souffrent depuis qu'ils sont chrétiens et que c'est la faute de Dieu, Dieu ne fait pas tout, non, c'est faux. C'est la personne qui a un problème. Et lorsqu'une personne vient se plaindre, on doit d'abord commencer par traiter son problème à elle. C'est ni la faute de Dieu, c'est ni la faute des autres. À cause de mon mari, je n'arrive pas à suivre le Seigneur. À cause de ma femme, je n'arrive pas à servir Dieu. C'est faux. Le vrai problème, c'est nous. Dès l'instant où quelqu'un se plaint, c'est celle qui se plaint qui a besoin d'abord d'aide.
Oui, il y avait aussi l'idée que, enfin, j'avais cette idée-là, qu'il cherchait effectivement le Seigneur, mais on dirait qu'il a vraiment cherché jusqu'au bout, et le Seigneur s'est vraiment révélé quand il a dit « je ne peux plus ». Comme s'il cherchait vraiment par lui-même, un petit peu partout, même s'il entendait toujours le Seigneur quand même qui l'appelle, un petit peu comme si le Seigneur il voulait lui dire « oui, mais c'est moi qui t'ai trouvé quand même, c'est moi qui est quand même venu vers toi, c'est quand même moi qui te tends la main ». Et il n'aurait peut-être pas eu cette idée-là dans son cœur, comme il dit, d'avoir entendu la voix du Seigneur depuis toujours, si, il y aurait peut-être eu un mauvais démarrage si lui, il était parti dans l'idée que c'était lui qui avait trouvé le Seigneur.
Amen, amen. Et ça, c'est vrai, le Seigneur le dit d'abord, que personne ne peut venir au Père si ce n'est pas le Fils qui lui révèle. C'est impossible. Donc, on ne peut pas venir à Dieu de nous-mêmes. Et donc, vraiment, la remarque de la sœur Géraldine est vraiment très, très importante. Ce n'est pas nous qui cherchons Dieu, mais c'est Dieu qui nous trouve. Voilà. Personne ne peut connaître Dieu si Dieu ne se révèle pas à lui. Là, en nous parlant pour ceux qui cherchons le Seigneur, mais j'insiste encore sur nous-mêmes les chrétiens, même dans ce que nous pouvons prier pour certaines choses. Nous pouvons demander au Seigneur certaines choses. Nous pouvons être dans l'attente de certaines choses. Mais ce n'est pas nous qui allons faire la différence. C'est Dieu qui fera les choses tout simplement parce qu'il est souverain. Dieu est souverain. Il y a beaucoup de choses qu'il a faites sans même que l'on prie, sans même qu'on lui demande. Donc ce n'est pas parce qu'on lui demandera que le cœur de Dieu changera ou sera beaucoup plus, je dirais, dans des dispositions à nous donner. Dieu est souverain. Il a un plan pour chacun d'entre nous. Et voilà, même ce que quelquefois nous pouvons lui demander, c'est lui-même qui nous met la soif de lui demander cette chose-là. De manière à ce que vraiment tout vienne de Dieu. Voilà, personne ne peut se glorifier, mais seul le Seigneur peut se glorifier. Alors, il y a un moment donné, il dit, lorsque le Seigneur s'est révélé, il dit qu'il n'a pas résisté, parce que pour lui, il avait l'impression que depuis son enfance, c'est comme si cette personne lui était familière. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Est-ce qu'il était chrétien déjà dès qu'il était enfant? Comment quelqu'un peut dire, oui, mais... je n'ai pas résisté parce que je sais qu'il était déjà avec moi. Comment le Seigneur peut-il être avec les hommes? De quelle manière le Seigneur peut-il être avec les hommes? Donc là, peut-être des témoignages personnels, je ne sais pas. Comment nous on ressent ça? Bon, moi, j'ai mon idée. Hein, peut-être que ma question est mal posée, mais je nous interpelle sur la remarque qu'il a faite.
Oui, que le Seigneur, parfois, même quand on est païen et qu'on fait vraiment, on est dans une vie qui n'est pas bien, on se rend compte... quand on est déjà chrétien, que le Seigneur était avec nous, qu'il nous protégeait toujours dans des situations vraiment pas possibles, parce qu'on se rappelle souvent, quand j'étais comme ça, quand j'avais fait ça, oh, le Seigneur était là, je me suis en sortie comme ça, je ne sais pas comment, je suis sortie de là, on se rend compte que le Seigneur était déjà là avec nous.
Voilà, donc il suffit simplement de revenir un peu en arrière, soit par nous-mêmes ou en faisant simplement une comparaison avec des personnes que nous avons connues, des personnes peut-être avec lesquelles nous avons évolué, que nous avons grandi, avec lesquelles nous avons fait des bêtises. Eux, aujourd'hui, ne sont plus là. Nous sommes là. Les fois, peut-être, nous sommes passés par une maladie que nous avons eue, alors que d'autres enfants sont morts avec cette même maladie. Mais nous sommes là. Les fois où nous avons été joués dans des terrains dangereux, nous avons été nous baignés alors que les parents ne savaient pas et qu'on est passé près de la noyade. Donc, lorsque on se remémore beaucoup d'événements comme ça, on se rend compte que là, ben, il n'y avait personne pour nous sauver. Donc, si ce n'était pas le Seigneur, à ce moment-là, donc, on ne serait plus, quoi. On ne serait plus là. Et souvenons-nous, la fois dernière, lorsque on avait parlé sur Mohamed, et on avait expliqué que le Seigneur l'avait préparé par des songes. Il l'avait préparé par des songes, donc, pour lui. Et on avait expliqué qu'il y a beaucoup de gens à qui le Seigneur peut parler de différentes manières. pour Khosrow, lui, il avait le sentiment que cette voix lui était familière depuis qu'il était, enfant. Il y a d'autres, c'est des songes, d'autres, ce sont des visions. Je ne sais comment le Seigneur peut se révéler, mais sans qu'ils aient, je dirais, véritablement une conscience ou bien la révélation de Dieu. Mais lorsque maintenant la personne va peut-être entendre une prédication ou va peut-être être, je dirais, confrontée aux évangiles, c'est là où ce qu'il avait vu autrefois, ce qu'il avait entendu autrefois, va prendre un véritable sens. Et on s'était dit que ça doit être important pour nous de connaître ça de manière à être, à parler librement. Parce qu'on ne sait pas, il y a beaucoup de gens qui sont dans l'état de Khosrow, qui ne trouvent pas de paix, qui ont tout, qui ont l'argent, qui ont le travail, qui ont une famille, qui ont tous les moyens nécessaires qui pourraient satisfaire un homme physiquement. Mais malgré ça, ce sont des gens qui vivent comme des morts, des gens qui n'ont pas d'appétit, des gens qui ont des troubles de sommeil, alors qu'apparemment, ils ont tout. Mais il leur manque quelque chose, qui est ce Jésus-là. Mais ils ont simplement besoin d'entendre qu'il y a quelqu'un qui les aime et il y a quelqu'un qui peut leur donner finalement ce qu'ils cherchent. Voilà, donc c'est pourquoi ça doit être, je dirais, une motivation pour nous et un encouragement de savoir que lorsque le Seigneur nous envoie dans la moisson, c'est que le Seigneur a déjà préparé le terrain. Le Seigneur dit « la moisson est déjà blanche, donc c'est déjà prêt ». Il suffit juste d'aller semer et le fruit se manifestera un jour. Donc pour nous, on ne doit pas oublier que nous travaillons avec le Seigneur. Quelquefois, l'évangélisation peut devenir dure parce qu'on se prépare déjà à vouloir convaincre la personne. Donc on est dans des dispositions où même lorsque on voit la personne peut-être sortir d'une Porsche, on se dit « bon, là ça va être compliqué ». Lui, il a une Porsche ou bien une Ferrari. Ah, ces gens-là, avec le Seigneur, les riches, c'est difficile. Mais nous ne savons pas. Quelles sont les attentes de ce monsieur? On ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dans son cœur. On ne sait pas s'il a eu des visions, s'il a eu des songes, si Dieu lui a parlé déjà d'une certaine manière. Et quelquefois, on essaye et malheureusement, ça nous pousse quelquefois à mettre des stratégies en place pour savoir comment aborder. On essaie de chercher. Non, ce n'est pas ce que le Seigneur veut. Donc nous soyons conscients que le Seigneur travaille avec nous. Et forcément, si Dieu nous envoie, c'est ce que le Seigneur a déjà fait un travail. Même si, lorsque l'on va parler, il va sembler y avoir comme une forme d'opposition, le Seigneur ne nous demande pas de marcher avec la vue, de regarder au visage de la personne, de regarder à ce que la personne va répondre. Non, il nous dit tout simplement de parler. Le reste, il est écrit dans Jean 16, 8, que le Saint-Esprit convaincra. Donc, notre part à nous, c'est de parler et de nous dire, ben, nous travaillons avec le Seigneur, nous ne sommes pas seuls. Mais lorsqu'on oublie qu'on est avec le Seigneur, on a l'impression que tout ce qui va se présenter devant nous va être comme un mur. Ça va être un mur, il va falloir lutter, il va falloir batailler, il va falloir argumenter. Non, nous savons que le Jésus que nous prêchons, c'est le vrai Dieu. À partir de ce moment-là, nous présentons tout simplement les choses. On n'est pas là pour débattre, on n'est pas là pour convaincre. Je sais qui est Jésus et je n'ai pas besoin de te le prouver. Je te le dis tout simplement. Maintenant, tu prends ça. Tu vas contester devant moi, mais je sais que rentrer chez toi, tu vas être tourmenté. Donc, on doit vraiment parler avec cette assurance-là en nous disant que, mais Dieu parle. Dieu parle à tout homme. Donc, je ne sais pas, est-ce que la personne vers laquelle je m'avance, si Dieu lui a parlé, peut-être. Voilà. Mais ce qui est sûr, c'est que ce que je vais semer va porter du fruit d'une manière ou d'une autre. Donc, on doit vraiment être dans cette disposition-là. Confiance en Seigneur que le Seigneur a déjà commencé à faire un travail. Donc lorsque Dieu nous envoie quelque part, ce n'est pas en vain. C'est que le Seigneur a déjà commencé à faire le travail et nous sommes des équipiers, nous travaillons avec le Seigneur. Notre part, c'est de parler et la part du Seigneur, c'est de faire le reste. Amen. Donc c'est possible qu'il y ait des personnes qui ont le sentiment d'avoir eu, je dirais, une certaine proximité avec le Seigneur. Voilà, ça ne contredit pas la Bible en tout cas. Ça ne contredit pas la Bible, donc c'est possible que le Seigneur ait préparé des personnes depuis leur enfance. Dans ce cas, à lui, on ne sait pas véritablement qu'est-ce qui faisait que c'était une personne triste, une personne qui ne pleurait pas, une personne qui ne riait pas. On ne le sait pas. Voilà. Mais en tout cas, c'est sûr que la préparation a dû se faire donc, depuis son enfance, comme lui le témoigne. Et on doit aussi comprendre que finalement, même ce que nous vivons lorsque nous sommes enfants est aussi une préparation du Seigneur. En tout cas, Dieu le permet. Est-ce que si mon enfance n'avait pas été telle qu'elle a été, est-ce que j'aurais connu le Seigneur à ce moment-là? Est-ce que je servirais le Seigneur aujourd'hui? Donc, je crois que le Seigneur se sert de toute notre vie pour nous amener à lui. Voilà. Et tous les événements, lorsque on donne notre vie au Seigneur, on comprend finalement que beaucoup de choses que nous avons vécues autrefois ont été utiles, même si elles ont été douloureuses quelquefois, mais il fallait certainement ça aussi pour briser notre orgueil. Voilà, parce que même un enfant peut être très orgueilleux. Oui.
En fait, je voulais savoir, pour Cosmos, quand il dit
Khosrow,
quand il dit que la voix lui semblait familière depuis son enfance, est-ce que Dieu lui avait fait une grâce particulière parce qu'il est né quand même dans une famille musulmane? C'est la question.
Une grâce particulière à lui, pas une grâce dans le sens privilégié.
Voilà.
Voilà, parce que la grâce que nous avons tous, c'est que Jésus-Christ est mort pour nous tous. Maintenant, le Seigneur peut se révéler à chacun d'une manière particulière. Et il est possible que dans la famille, eh ben, il n'y a peut-être que lui à qui le Seigneur s'est révélé de cette manière-là. C'est possible aussi. Voilà. Et ça aussi, c'est selon le cœur de chacun. Voilà. Le Seigneur sait. Je discutais avec une sœur hier ou avant-hier qui me disait, telle personne, le Seigneur lui a parlé. Moi, j'aimerais bien que Dieu me parle comme ça. Vraiment, si Dieu me parle comme ça, en tout cas, ça sera. Je dis, tu ne sais pas. Il y a des gens il a parlé, ils ont fui le Seigneur. Donc, il ne faut pas du tout envier en se disant, il a vécu quelque chose d'extraordinaire. Moi aussi, j'aimerais bien vivre ça. Non. Toi, peut-être, si tu vis ça, tu vas penser que maintenant, c'est toi qui es devenu, le chef de l'Église. Parce que Dieu te parle directement, donc tu vas augmenter les épaules. Donc, c'est très, très dangereux. Donc, chacun, le Seigneur fait comme il veut. Voilà, le Seigneur fait comme il veut. Et c'est un problème qu'on retrouve souvent aussi dans la vie chrétienne lorsque notre vie, nous marchons en fonction de ce que Dieu fait dans la vie des autres. Donc on n'a plus véritablement une communion personnelle avec Dieu. Notre communion va être bonne si on a le sentiment que ce que Dieu a fait dans la vie de l'autre, il a aussi fait avec moi. Si j'ai le sentiment que Dieu a fait quelque chose à lui, mais que moi il ne m'a pas fait, je suis déstabilisé et je ne suis plus heureux. Non, le Seigneur n'est pas obligé de faire pareil avec nous tous, de la même manière que lorsque nous éduquons nos enfants ont des caractères différents. Donc avec tel enfant, tu sais qu'avec lui, tu es obligé de faire comme ça, parce que l'autre est peut-être plus doux, l'autre peut-être plus docile. Donc c'est pas pareil, mais ça ne veut pas dire qu'il y a des préférences. Je préfère mon enfant, je préfère ma fille plus que mon fils. C'est faux. Voilà, c'est tout simplement qu'ils sont différents, ils ont un caractère différent, donc forcément, je dois aussi adapter ma manière de faire qui sera différente. Et le Seigneur fait pareil avec nous. Voilà, donc ce que le Seigneur donne à l'autre, il n'est pas obligé de te le donner à toi. Si maintenant toi tu regardes à l'autre en pensant que non, moi c'est ce qu'il me fallait aussi pour être heureux, là on va entrer dans des murmures. Dieu fait du favoritisme, Dieu donne à tel, je ne comprends pas, moi je souffre depuis longtemps, je ne comprends pas lui, on le bénit, et on ne le dit, on le dit pas. Mais quelquefois, on a l'impression d'être plus saint, d'être plus spirituel que l'autre, mais on ne comprend pas que lui, Dieu, semble avoir comme le regard posé sur lui et que moi, tous les efforts que je fais, mais je vois que je suis régulièrement dans les réunions, en intercession, l'autre n'est jamais là, mais on a l'impression que voilà, tout coule sur de l'eau, et ça, ce n'est pas bon. Voilà, donc on a une grâce, c'est que Jésus-Christ est mort pour nous tous. Maintenant, comme je l'ai dit la fois passée, nous avons eu une éducation différente, nous avons eu un passé différent, nous avons des caractères différents et le Seigneur lui tient compte de tout ça pour nous amener à l'objectif final qui est la vie éternelle. Donc forcément, il ne nous fera pas passer par les mêmes épreuves, on n'aura pas forcément les mêmes bénédictions. Voilà, donc on doit apprendre ça et apprendre à demeurer dans une communion aussi personnelle avec le Seigneur. Ce que Dieu fait avec toi, c'est ça qu'il te faut. Voilà, peut-être que ton caractère est plus dur que l'autre, c'est peut-être pour ça que ton épreuve à toi a duré plus longtemps. Donc, on ne sait pas. Toi, tu peux le savoir. Oui, Ebiliane, vous voulez intervenir.
Oui, moi j'ai été touchée aussi, c'est par l'intervention du papa, en fait. Parce que il remet ça vraiment sur le dos de Jésus, comme quoi son fils a changé. Et que si c'est grâce à Jésus, tant mieux, quoi. Parce qu'on voit dans des familles où il y a un témoignage, il y a eu du changement, il y a eu tout ça. Donc ils acceptent cette partie-là, mais tout ce qui vient de Jésus, ils ne veulent pas en entendre parler. Enfin, ça reste au placard, quoi.
Voilà, le papa a fait preuve d'une honnêteté. Voilà, on ne nous dit pas là qu'il s'est converti, et il ne s'est pas converti pour autant, mais il a été honnête, peut-être même qu'il ne croyait pas. Voilà, on le voit aussi, je dirais, dans le monde, hein. Voilà, une personne qui va se donner à telle activité, bon, qui ne nous intéresse pas forcément, on se dit, écoute, il fait ça, c'est sa vie, il fait, moi il me laisse tranquille, il est en paix, il est plus calme à la maison, il fait du yoga. Bon, après tout, moi, je suis en paix. Pourtant, ce n'est pas forcément quelque chose qui est bon et que, qui n'est pas bon du tout, mais la personne qui le dit, elle n'est pas forcément consciente. Elle n'y croit pas, ça ne lui dit rien du tout. Et le papa était dans cette attitude-là, mais il a été honnête de dire, ben, tiens, il était comme ça. Depuis qu'il fait ça, voilà le résultat. Donc, c'est un constat tout simplement honnête. Donc, on voit que les païens aussi peuvent être honnêtes, c'est-à-dire dans le sens où ils font un constat qui est juste. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils vont se donner. Donc, c'est là qu'on voit vraiment, pour revenir à la question de Luc Dina, qu'il s'est révélé à Kostro. Pourtant, lorsqu'on voit le raisonnement du papa, on peut se dire, mais c'est quelqu'un qui est honnête. Donc, qui est dans les dispositions aussi pour connaître le Seigneur. Combien d'entre nous avons des amis où on se dit quelquefois, mais il ne lui reste plus qu'à être chrétien. Quelqu'un qui est disponible, quelqu'un qui est gentil, quelqu'un qui accepte ta foi donc sans te créer de problèmes, sans te combattre. On dit, mais il lui manque simplement d'être chrétien, il est disponible, tu l'appelles n'importe quoi, il vient et t'aide. Mais ce n'est pas pour autant qu'il accepte le Seigneur. Donc on voit vraiment là la question du cœur. Nous sommes les premiers témoins lorsqu'on a des enfants, par exemple, qui sont déjà adolescents. On a des enfants adolescents qui ne nous causent aucun problème. Tu n'es pas convoqué à l'école. Tu n'entends pas dehors qu'il a fait ceci, qu'il a fait cela. Mais tu ne comprends pas, depuis qu'il fait l'école du dimanche, il ne veut pas se donner. Voilà, donc là, on voit vraiment que le cœur est individuel. Vraiment, le cœur est individuel. Et donc, par l'attitude du Père, donc, on peut vraiment souligner le côté honnêteté qui doit aussi nous interpeller sur la question du jugement. Parce que s'il a été capable de faire la différence entre l'avant Jésus et l'après Jésus, mais que lui ne donne pas sa vie, le Seigneur va lui rappeler ça. Le Seigneur lui rappellera ça. Donc, on voit vraiment là la responsabilité de l'homme dans son choix. Donc, l'homme, Dieu l'a créé avec une intelligence qui fait qu'il est capable de discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Et donc, nous voyons tout simplement que ceux qui refusent le Seigneur, c'est vraiment de mauvaise foi. Parce que concrètement, aujourd'hui, lorsqu'on leur pose la question, qu'est-ce que vous reprochez à Jésus? Qu'est-ce que vous reprochez à Jésus? Qu'est-ce qu'on peut reprocher à Jésus? Il n'y a rien à reprocher, mais pourquoi tu ne veux pas le suivre? Qu'est-ce que tu as à perdre en devenant quelqu'un de bon? Qu'est-ce que tu as à perdre en laissant le Seigneur te travailler pour que tu aies la capacité de pouvoir aimer tes ennemis, de prier pour ceux qui te persécutent? Qu'est-ce qu'il y a de mauvais là-dedans? Donc c'est toi simplement qui es mauvais, c'est tout. C'est ça la réalité. Voilà, le papa a fait un très bon constat, voilà, qui nous montre que vraiment l'homme est responsable de ses actes et de ses choix.
Est-ce que ça rejoint le verset qui dit « Ils ont peur de venir à la lumière, enfin, ils ne veulent pas venir à la lumière de peur que leurs œuvres deviennent manifestes »
Ça rejoint ce verset, et ça rejoint parce que lorsque le Seigneur parlait comme ça, il parlait surtout des scribes, des pharisiens, des gens religieux. Voilà. Et il le dit aussi, il y a un passage, quand il dit que, après que le Seigneur avait prêché, beaucoup des scribes, des pharisiens qui étaient là avaient cru. Mais la Bible dit, ils ont préféré la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Donc ces gens-là avaient cru. Ils avaient vu que là, ce que nous entendons, c'est ça qui est la vérité. Ils avaient vu que là, véritablement, Jésus-Christ était celui qui prétendait être. Mais ils ont fait le choix entre renoncer à tous leurs honneurs, être respectés dans la société, être élevés, recevoir tous les honneurs des hommes, et suivre l'enseignement de Jésus-Christ qui allait les pousser à se dépouiller, à devenir humbles, à se mettre au même niveau que tout le monde. Ils ont fait le choix, ils ont dit non, non, non. On sait qu'il dit la vérité, mais les désirs de la chair sont tellement forts que nous, on préfère les honneurs, être assis aux premières places, être respectés dans les rues, que les gens fassent la courbette devant nous. C'est ça qu'ils voulaient. Et la Bible dit clairement, ils ont préféré la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Ils ont fait le choix.
La gloire des hommes, c'est aussi la crainte de l'homme. Il y a un passage, c'est le passage avec l'aveugle né. Et au bout d'un moment, les pharisiens, ils appellent les parents. Enfin, les parents, ils interviennent. Et de peur que les pharisiens... Enfin, comment l'expliquer? C'est-à-dire que les parents, ils avaient peur des pharisiens, puisqu'à l'époque, il ne fallait pas qu'ils reconnaissent que Jésus était le Christ. Et en fait, c'était par rapport au miracle. Et de ce fait, ils ont dit aux pharisiens, interrogez-le vous-même, de manière à ce qu'eux, ils ne puissent pas...
Voilà, mais ils n'ont pas réuni les parents. Les parents n'ont pas renié, ils n'ont pas voulu tout simplement se mouiller, se mettre devant, mais ils n'ont pas dit que nous, on renie que celui-ci est le Christ. Voilà, ils n'ont pas nié que Jésus-Christ était le Christ. Ils ont dit, interrogez lui-même, il a de l'âge. Voilà, donc il est assez grand pour se justifier lui-même.
Ouais, mais en fait, c'est indiqué après dans la Bible que c'était à cause des pharisiens qui n'ont pas
oui.
pu. Il y a un verset qui dit, celui qui me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père.
Voilà, mais c'était pas, je dirais, c'était pas, il n'était pas de la même disposition que les pharisiens qui ont blasphémé contre le Saint-Esprit. Voilà, le Seigneur a dit que, parce qu'après ils ont continué toutes sortes d'accusations pour dire, mais non, même les miracles qu'il fait, c'est pas Belzébul qui fait ces choses-là. Donc eux étaient vraiment dans une attitude de combattre le Seigneur. Voilà, les parents ont aimé, je dirais, la gloire des hommes à un niveau, mais pas au point de renier le Seigneur. Donc on ne sait pas par la suite s'ils se sont convertis ou pas. Et l'attitude des parents, on ne va pas non plus dire qu'elle est bonne, quoi. Voilà, mais je veux quand même faire une différence entre celui qui a eu peur même de dire que je suis chrétien publiquement et celui qui combat Jésus. Il y a quand même une différence. Parce que ça arrive même des fois aujourd'hui à des chrétiens, au moment où ils sentent qu'ils peuvent parler du Seigneur dans sa famille, par peur, ils préfèrent ne rien dire. Est-ce qu'on va dire que non, il a renié, c'est devenu un païen? Non. Voilà, il a eu peur, les parents ont eu cette attitude de peur, et puis bon, il y a eu peut-être certains avantages, certains intérêts aussi qu'ils recherchaient, mais ils n'étaient pas dans la même attitude que les gens religieux qui, eux, vraiment combattaient le Seigneur. Voilà.
D'accord.
Mais on doit quand même souligner ça, oui, ce passage que tu as dit. Le Seigneur a dit que celui qui se déclarera publiquement pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui. Voilà. Mais celui qui ne se déclarera pas, bon, le Seigneur aussi, devant son Père et devant les anges aussi, le reniera.
Parce qu'il y a l'exemple de Pierre aussi. Lui aussi, il a renié.
Pierre aussi a renié.
Mais c'est
voilà.
par crainte des hommes.
Voilà, aussi, mais ce n'était pas pour se détourner du Seigneur. Non. Donc, pour revenir à Khosro, donc nous voyons, comme je le disais premièrement, le changement qu'il y a eu entre ce qu'il était avant le Seigneur et ce qu'il est devenu tout simplement après. Même au moment où le Seigneur l'a touché, on a vu ses parents venir dans la chambre le trouver en train de pleurer. Quelqu'un qui ne pleurait pas, quelqu'un qui ne riait pas, quelqu'un qui ne manifestait aucun sentiment. Mais au moment où le Seigneur l'a touché, la vie a aussi changé. Donc on voit là tout simplement, je dirais, ce qui doit être visible à un moment donné dans la vie d'une personne qui est née de nouveau. Voilà, il faut qu'il y ait un changement entre l'avant et un changement après, quoi. Voilà, on voit clairement que le frère, la sœur qu'on connaissait autrefois, ce n'est plus la même personne. Donc, il y a quand même des signes qui le manifestent. Maintenant, on ne va pas forcément dire, ben, tiens, c'est quelqu'un qui ne riait pas beaucoup déjà autrefois, maintenant il ne rit pas. Est-ce que vraiment il est converti? Ce n'est pas ça. Mais on voit tout simplement que dans la vie générale, on voit vraiment que c'est une autre personne. Voilà. En tout cas, ça se voit. Voilà, ça se voit et ça fait partie, je dirais, des points que la Bible nous donne. Voilà, donc quelqu'un qui est de nouveau, on le reconnaît à ses fruits parce qu'il manifeste maintenant la nature de Dieu. Voilà, donc on ne doit pas, je dirais, avoir peur de le dire. Souvent, lorsqu'on dit ces choses-là, oui, mais vous jugez. Non, on ne juge pas. Voilà, on fait un constat que la Bible a déjà fait avant nous, quoi. Voilà. Une autre question, qu'est-ce qu'on peut dire de la fuite de Khosro? Est-ce qu'on peut dire qu'il était véritablement converti? Il a fui. Est-ce qu'il ne pouvait pas prendre le risque et puis mourir pour le Seigneur directement?
Moi, je pense que sa fuite, c'était dans son appel.
C'est-à-dire?
On voit qu'au final, il a été aux États-Unis. Il est parti là-bas pour prêcher. Il n'est pas parti là-bas juste pour dire « je suis en sécurité ». Donc, il est quand même parti là-bas avec Dieu dans son cœur. Il est parti là-bas annoncer l'Évangile. Donc, moi, je pense que ça faisait partie de son appel de fuir.
D'accord, mais...
Puisque Dieu, au final... Enfin, si Dieu ne voulait pas qu'il parte, il aurait pu bloquer les choses.
Ça, c'est... je suis en partie d'accord avec toi, mais je veux rebondir sur ce que tu as dit. Si Dieu n'avait pas voulu le rebloquer. Et c'est souvent ce que beaucoup de gens disent lorsqu'ils veulent prendre une orientation, même doutant que ce n'est pas vraiment de Dieu, mais de toutes les manières, si ce n'est pas de Dieu, Dieu va bloquer. Mais ce qui est sûr, c'est que Dieu ne bloque pas toujours. Quand il sent qu'on est déterminé à prendre une voie et à ne pas écouter sa voix, le Seigneur peut nous laisser faire. Voilà. Il peut aussi nous laisser faire. Mais ça, on le sait aussi dans notre cœur. Ça, on le sait dans notre cœur. Après, certains remettent la faute sur Dieu. Non, non, non. Dieu ne va pas toujours nous bloquer. Des fois, on prend une voix. Bon, vraiment, Seigneur, si ce n'est pas de toi, tu me bloques. Non. Il y a des moments, oui. Parce que vraiment, on n'a pas d'idée. Il y a des moments, sincèrement, on ne sait pas. Dieu veut que je fasse ce que je fasse cela. Il y a des moments où, vraiment, on ne sait pas. Sincèrement, on ne sait pas. Et on est libre. C'est-à-dire qu'on est prêt à ce que le Seigneur nous dise gauche ou droite. Voilà. Là, oui. Mais il y a des personnes qui vont prendre une orientation en disant, bon, si Dieu veut me bloquer, qu'il me bloque. Mais on sait qu'en fond de nous, si Dieu me dit de faire demi-tour, je ne vais pas le faire. On ne le dit pas comme ça, mais on est tellement déterminé à faire le choix que nous avons décidé que, bon, si ce n'est pas de Dieu, on va me bloquer. Non, ça, ce sont des fausses excuses. Voilà, mais je suis d'accord avec toi. C'est un point que c'était aussi lié à son appel. Mais quand même, on voit que ce qui l'a poussé à partir, c'est on sentait quand même la peur. Voilà, donc est-ce que c'était quelque chose de mauvais ou pas?
Oui, on ne sait pas exactement quelles sont les motivations qui l'a poussé à partir, mais on sait quand même que c'est le Seigneur qui lui a demandé de partir, parce que quand son fils commençait à se noyer, il a quand même dit, mais limite en colère, c'est toi qui as voulu qu'on soit là, si ce n'est pas pour mourir comme ça. Donc c'est vraiment par ces phrases-là qu'on peut voir que c'est le Seigneur qui l'a envoyé, ce n'était pas un choix personnel en fait.
D'accord.
Oui, il y a un moment, il dit au pasteur qu'il était prêt à tout pour suivre le Seigneur. Donc, il était même prêt à mourir. Donc, et puis, on voit un moment aussi où il dit qu'il a été arrêté et que vraiment, on a pris soin d'eux, on les a mis au chaud. Et voilà quoi. Donc, moi, je pense que vraiment, il était.
C'était la volonté de Dieu.
Voilà, que c'était la volonté D'accord. de Dieu.
En fait, pour rebondir sur ce que disait la sœur Géraldine, quand il disait « Pourquoi venir mourir ici ?», ça me fait appel à une histoire dans la Bible, quand Moïse il a libéré le peuple. Donc souvent, les questions qui nous viennent quand on voit qu'on est bloqué, on dit au Seigneur « Mais pourquoi là ?» Or que ben, Dieu avait déjà préparé des plans à l'avance.
Amen.
Donc voilà.
Et il a parlé à sa famille ouvertement quand la famille a dit, ben pourquoi, c'est quoi tu veux faire de ta vie? Puis il a dit, ben je veux servir Dieu. Il n'a pas eu peur de dire sa position. Moi, quand on dit, il a fui le pays, mais c'était pas parce qu'il y avait, bon, en tout cas, c'est pas par crainte, parce qu'il aurait eu peur même de témoigner à sa propre famille. Il n'avait pas peur de dire sa foi, mais le pays était dans un temps, on dirait politiquement... compliqué, et son pasteur lui en avait parlé d'aller ailleurs, donc il semblait se soumettre à ça.
Amen. Lilian?
Oui, je trouve aussi qu'il avait raison de partir parce qu'il venait de se convertir, s'il voulait vivre vraiment sa foi et tout, il ne pouvait pas rester dans un pays comme ça, ça allait être dur pour lui. Parce qu'il venait juste de connaître Dieu, donc il avait raison de partir.
Donc, si je suis ton raisonnement, là, on dirait tous les chrétiens qui se convertissent en Corée du Nord doivent quitter la Corée du Nord. Est-ce que forcément, si on se convertit dans un pays qui est difficile, si on veut vivre notre vie chrétienne, on doit forcément quitter? On peut répondre à cette question ou bien abonder sur...
Je ne sais pas si on doit forcément partir, mais il y avait l'occasion pour qu'il parte. C'était bien pour lui. S'il n'y avait pas l'occasion, peut-être le Seigneur allait aussi lui donner les moyens de s'affermer dans sa foi. Mais là, il y avait l'occasion
voilà.
de partir. Donc, c'est pour ça qu'il
est... Donc, le Seigneur pouvait lui donner les moyens de s'affermer dans sa foi, même là où c'était difficile. Voilà, donc ça, c'est une réalité. Donc, il nous ramène, je dirais, si... Est-ce que d'autres veulent intervenir avant qu'on... Oui. Il y a Boris. Vas-y, Boris.
Non, c'était toujours par rapport à ta question. Dans les actes des apôtres, quand après la crucifixion de Jésus, il y en a qui ont fui Jérusalem et il y en a qui sont restés comme Étienne. Donc, les deux réactions, elles sont bibliques. Il y en a qui sont morts sur le terrain et il y en a qui ont fui, mais la fuite, c'était pour que la parole soit répandue.
Euh, Est-ce qu'on pourrait le comparer? Enfin, moi, j'ai, y a un passage où Jésus, enfin, les Juifs, ils voulaient lapider Jésus par rapport à ses bonnes œuvres. Et au bout d'un moment, on voit que Jésus, il s'échappe. Donc, je voulais juste savoir si on pouvait comparer la réaction de Khosrow.
On peut comparer cette réaction-là. On peut même comparer la réaction de Joseph et de Marie lorsqu'ils ont fui en Égypte. Hein. Donc, voilà. Donc, je dirais d'intervenir et puis on va clôturer là-dessus.
Je ne sais pas si en fait on pourrait vraiment parler de fuite, peut-être avec des yeux extérieurs, mais avec des yeux intérieurs, en fait, ils ont obéi, ils n'ont pas fui. C'est un petit peu dans l'idée où peut-être que même lui, vu que c'était un guerrier, un battant, pour lui, c'était peut-être dur de devoir partir. Peut-être qu'il aurait voulu être sur le front dans son pays. Et peut-être que pour lui, oui, c'était plutôt une rupture de devoir partir pour obéir à Dieu, pour être mis à l'écart, mis à l'abri. Après, on ne sait pas ce que le Seigneur y voulait, mais on peut prendre ça aussi dans ce sens-là.
Amen. Jean-Luc aussi voulait intervenir, je crois.
Oui, merci. C'est tout à fait dans l'esprit de ce que vient de dire Géraldine. Moi, je n'ai pas le sentiment que ce soit une fuite. J'ai plutôt le sentiment qu'effectivement, c'est une obéissance, parce que dans le film, si ma mémoire est bonne, il dit qu'il renonce à une promotion. Enfin, bon, il ne sait pas trop si c'est une promotion, mais j'ai l'impression qu'il est appelé. Et j'ai l'impression qu'il est dans l'obéissance, il est dans le sens de l'appel, de ce qu'il perçoit. Mais on parle de fuite depuis tout à l'heure, j'ai vraiment pas le sentiment que ça en soit une. J'arrive pas à mieux l'expliquer que cela. C'est ma perception des choses.
D'accord. Oui, forcément.
Oui, je crois que dans le film, à aucun moment, on a fait mention d'un quelconque appel à sortir en fait de l'Iran. Et si on se souvient d'un documentaire qu'on avait passé, je crois cela remonte à 2-3 mois, il y avait un Iranien, un Américain d'origine iranienne, qui était aux États-Unis, qui, à la suite d'un déplacement en Iran, a choisi de rester sur les terrains là-bas et de servir le Seigneur là-bas. Et moi, je pense, je ne condamne pas cette personne, je ne suis pas bien placé, je crois que je peux qualifier ça un peu de fuite, en fait, parce que c'était une période qui est un peu difficile où il fallait véritablement servir le Seigneur sur place, sur le terrain. Et comme tu l'avais soulevé un peu rapidement tout à l'heure, le Seigneur pouvait aussi lui donner la capacité de continuer à le servir, lui donner les moyens de le servir sur place. Alors que les États-Unis sont, je dirais, déjà abondamment, remplis de serviteurs de Dieu déjà. Et je crois que l'Iran a plus besoin de serviteurs de Dieu que les États-Unis. Bon, là, je ne rentre pas dans un jugement, hein, mais j'essaie juste de faire la part des choses, tout simplement.
D'accord. Voilà.
Alors, moi, je vais un petit peu dans le sens de Siméon, dans le sens où si c'était de Dieu, pourquoi ne pas faire les choses légalement ?
Légalement, c'est-à-dire ?
Bah, je ne sais pas pourquoi faire passer par des pasteurs, en fait. Je ne connais pas trop les contextes, hein, mais Dieu est tout-puissant pour les papiers, je ne sais pas.
D'accord. Alors, pour essayer de... Bon, Ludina.
Après, pour moi, je pense que c'était tout simplement son appel. Il a fait un acte d'obéissance en fuyant, mais après, Dieu fait ce qu'il veut comme il veut. Peut-être qu'il fallait qu'il passe par là en venant inégalement et puis voilà.
D'accord. Donc, on voit sur la fin du film, finalement, qu'aujourd'hui, il sert le Seigneur auprès de la communauté iranienne, donc aux États-Unis. Alors, c'est tous dans la même chose. Donc, on clôture avec toi alors. On clôture avec toi.
Non, je voulais relever ce point-là. C'est que quand il est arrivé de l'autre côté, il était où? Il était en Turquie.
En Autriche, je crois.
En Autriche, voilà. Quand il est arrivé en Autriche, il a été accueilli. Donc, est-ce que ça peut confirmer que c'était la volonté de Dieu qu'il aille là-bas? Puisqu'il n'y a pas eu problème. Il n'y a eu aucun problème par rapport à ses papiers. Il a été accueilli par je ne sais plus qui. Mais tout s'est bien passé. C'est ce qui a été relevé dans le film.
Voilà. Donc, c'est tout ça donc, qui montre. Donc, la fin nous montre quand même que les choses lui ont été favorables. Maintenant, on n'a pas forcément, je dirais, tous les éléments qui nous montre pourquoi il est parti, pourquoi ça semblait comme une fuite, partir de nuit par des chemins, je dirais, fabriqués, non pas par une voie officielle, avec un passeport, avec un visa. Donc on voit, il y a des éléments là qui nous montrent ça. Il y a d'autres éléments qui nous montrent lorsque le jeune pasteur lui parle, qui lui dit, mais est-ce que tu es sûr que tu veux servir? Parce que tu seras obligé de fuir. On va te persécuter à cause du nom de Jésus. Il a dit, non, moi je suis prêt à souffrir. Donc on voit là que quand même, qu'il était prêt aussi à mourir. Voilà, donc maintenant dire, est-ce qu'il a fui? Est-ce que c'était l'appel de Dieu? Toujours est-il que le résultat nous montre quand même que le Seigneur a fait quelque chose. Ça peut aussi arriver que nous ayons fait des mauvais choix même autrefois et que Dieu finalement les utilise et les transforme pour sa gloire. Ça peut arriver aussi. Maintenant, moi je veux tout simplement dire que les deux sont possibles. Voilà, les deux sont possibles. La fuite n'est pas forcément, je dirais, quelque chose, je dirais, de lâche, quoi. Voilà, comme on pourrait, je dirais, l'entendre. Voilà, quand tu entends quelqu'un fuir, donc tu te dis lâche, non. Beaucoup d'exemples nous ont été donnés ici. Quand il y a eu la persécution, les apôtres ont fui. Quand on a voulu tuer les enfants d'un certain âge, Joseph et son épouse ont aussi fui en Égypte. Donc, la fuite peut aussi être liée à la volonté de Dieu. Mais ce que nous voyons derrière, c'est le fruit aussi, je dirais, qui se produit. Nous voyons des personnes qui vont fuir, je dirais, un contexte. Celui que nous connaissons le plus, c'est peut-être le contexte de l'Assemblée, le contexte de l'Église, en prétextant des choses, en prétextant ceci, en prétextant cela. Ce n'est pas un problème. Dieu m'a dit de quitter, Dieu m'a dit de partir. Mais on le voit aussi dans le fruit. Il y a des personnes qui ont quitté certains environnements et aujourd'hui, ils sont en train de errer totalement. Et pourtant, ils soutenaient que c'était de Dieu. Aucun fruit n'est là. Des personnes même qui prêchaient dans l'Église, aujourd'hui, sont assis à la maison. Voilà, aujourd'hui, sont assis à la maison. Des personnes qui étaient pasteurs dans un pays, qui géraient un troupeau, l'occasion favorable de quitter le pays, ils le saisissent sans se soucier. Mais qu'est-ce que le troupeau va venir, va devenir? Et aujourd'hui, il continue à se faire appeler pasteur alors qu'il est tout seul chez lui. Donc on voit là, dans la conséquence, dans les fruits qui sont portés après, vraiment l'origine. Est-ce que la fuite ou le départ, ou bien soi-disant l'appel, c'était vraiment de Dieu? On le voit aussi par les fruits. Voilà donc, il y a des circonstances dans lesquelles le Seigneur peut nous emmener qui peuvent paraître comme une fuite. Tu es, je dirais, embêté au travail et le Seigneur peut te pousser tout simplement à démissionner. Ce n'est pas forcément une fuite, mais ça, je dirais, c'est vraiment quelque chose de personnel. Voilà, c'est vraiment quelque chose de personnel, mais les fruits après vont démontrer est-ce que c'était de Dieu ou pas, ou est-ce que c'était simplement par l'orgueil ou volonté personnelle.
Oui, je voulais rajouter aussi que, bon, il a quand même servi le Seigneur dans son pays, puisque quand il s'est converti et quand ils sont partis, ils ont pris la fuite, bon, il était quand même marié, il avait quand même des enfants, donc il y a quand même eu un laps de temps qui s'est écoulé.
Il y a quand même eu un laps de temps qui est écoulé, mais on ne sait pas trop ce qui s'est passé pendant ce laps de temps. Donc
je veux dire, bon, malgré tout, il a quand même dû servir Dieu là où il était.
Il a dû, donc là on est encore dans le dû, donc c'est pourquoi je dis que c'est difficile pour nous, je dirais, de parler vraiment d'une manière exacte. Voilà, à quel moment il a reçu l'appel. Moi, personnellement, mon avis, je crois que c'était lié à la volonté de Dieu. Voilà, parce que la confession d'être prêt à mourir, donc je crois, ça, il était prêt à mourir. Voilà, donc quelqu'un qui est prêt à mourir, je ne vois pas l'intérêt qui fuit, quoi. Voilà, donc je pense que c'était lié à l'appel du Seigneur, et puis il l'a fait. Mais, comme d'autres frères aussi l'ont souligné, et à juste titre aussi, ça peut aussi être une fuite. Mais toujours est-il que nous, on doit, je dirais, considérer que c'est possible de fuir. Voilà, Dieu peut nous demander de fuir un endroit. Mais les fruits que nous allons porter par la suite vont justifier est-ce que c'était de Dieu ou pas. Voilà. Donc, en tout cas, que le témoignage de notre frère nous aide encore donc, à comprendre la question du salut, le comment, le pourquoi et surtout ce que le salut produit dans la vie de quelqu'un. Voilà, ce que le salut produit dans la vie de quelqu'un. Donc, il y a des fruits qui sont aussi clairs. Donc, on ne va pas toujours se cacher en disant « Oui, mais moi, Dieu me connaît. » Non, Dieu te connaît, ça, c'est une certitude. Mais si réellement tu es de Dieu, si Dieu t'appelle, les fruits aussi doivent être manifestés. Ce témoignage doit aussi nous encourager, bien-aimés, nous qui sommes dans un pays où il n'y a pas la persécution comme en Iran. à vouloir servir Dieu. L'un des points que j'avais souligné que je n'avais pas dit, c'est vrai qu'on avait vu qu'il ne souriait pas, il a commencé à sourire, qu'il ne pleurait pas, il a pleuré. On a vu ce changement-là, mais le fait aussi d'accepter le Seigneur, il a été prêt à renoncer à son travail pour servir le Seigneur. Pour servir le Seigneur dans un pays où il y a quand même une persécution beaucoup plus sévère qu'en France. Donc, ça doit nous interpeller. Nous qui vivons un évangile libre, c'est là où nous avons encore le plus de mal à trouver des gens qui veulent servir Dieu. Donc là, chacun doit, je dirais, s'interpeller et se poser la question, qu'est-ce qui fait que je ne sers pas Dieu? Voilà. Maintenant, d'autres diront, oui, mais servir Dieu, ce n'est pas que dans l'Église. Ça, c'est vrai. On peut servir Dieu de toutes sortes de manières. Mais l'Église est un lieu qui est incontournable pour un enfant de Dieu. Celui qui se dit enfant de Dieu ne peut pas dire je suis enfant de Dieu sans tenir compte de l'Église. Et nous voyons dans la parole de Dieu que les ministères sont reconnus aussi dans l'Église. Voilà, donc on ne peut pas nier ça. Maintenant, on ne peut pas nier aussi le fait que Dieu peut utiliser quelqu'un d'une certaine manière par rapport à un contexte dans lequel il est, mais quelqu'un qui a l'opportunité, Dieu lui fait la grâce de pouvoir vivre en assemblée, eh bien, qui ne peut pas s'en priver non plus, quoi. Voilà, qui ne peut pas s'en priver non plus. Donc, interpellons-nous là-dessus, bien-aimés. Lui, il était dans la persécution, il a dit, je suis prêt à servir Dieu. Nous, nous sommes libres. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut pour servir Dieu? Voilà, que le Seigneur nous aide. Éternel Dieu, nous te bénissons. Nous te rendons grâce encore, Seigneur de gloire, vraiment pour l'œuvre que tu fais dans la vie, Seigneur de gloire, même des Iraniens, Seigneur. C'est le témoignage vraiment, Seigneur de gloire, que tu agis partout, que tu te révèles à tout homme, éternel Dieu. Et nous sommes dans la joie de savoir, Seigneur de gloire, que vraiment nous sommes ouvriers avec toi, que tu as déjà fait le travail, Seigneur de gloire, en amont, et que lorsque tu nous envoies, Seigneur, c'est parce que les choses ont déjà été préparées. Seigneur, nous voulons être conscients de cela à tout moment. Nous ne voulons pas fuir notre appel. Nous voulons être disposés à te servir en esprit et en vérité. Aide-nous, Seigneur de gloire, à l'image de Khosro, à renoncer à tout ce qui est terrestre, Seigneur, à obéir à ta voix. Si nous devons abandonner le travail, Seigneur de gloire, que nous puissions accepter de le faire librement avec cette assurance que toi, tu vas pourvoir à nos besoins, Seigneur. Si tu nous demandes de quitter notre ville, de quitter un pays, Seigneur de gloire, nous voulons vraiment être disposés dans l'obéissance, Seigneur de gloire, dans le nom de Jésus. Seigneur, viens nous aider, Seigneur, à faire ta volonté en tout temps, en toutes circonstances, Seigneur, car nous savons que que nous sommes en sécurité lorsque nous sommes aussi dans ta volonté. Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, nous ne sommes rien. Et c'est pourquoi nous te recommandons nos vies, afin que tu nous transformes encore, Seigneur de gloire, et que tu nous amènes à la perfection. Dans le nom de Jésus, Seigneur, sois béni, sois glorifié. Nous te louons pour ton salut, Seigneur. Gloire et louange à toi au siècle des siècles. Amen.